BW. Droits et libertés.
Comment les Iraniens voient-ils les États-Unis ? Nous allons chercher à comprendre cette admiration matinée de mépris et d'incompréhension. Mais c'est au Maroc qu'on commence cette émission avec le débat sur l'avortement, relancé par le procès de la journaliste Hadja Raissouni. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Au Royaume du Maroc, l'avortement est interdit. À cette règle, une seule exception, quand la vie de la mère est en danger. Le procès de la journaliste Hadja Raissouni se tient en ce moment à Rabat. On lui reproche un avortement illégal et d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage, ce que la justice marocaine qualifie de débauche. Comme dans toutes les sociétés, malgré l'interdiction, des avortements sont pratiqués au Maroc, clandestinement, dans de très mauvaises conditions. Un projet de loi a été déposé au Parlement pour modifier la législation. C'était il y a plusieurs années déjà et il n'a pas encore pu être voté. Shafik Shraibi est médecin obstétricien dans une maternité de Rabat.
Il y a beaucoup de patientes qui se présentent ici avec des viols ou avec des malformations fœtales qui sont importantes. Et le nouveau chef de service ne veut pas du tout faire quoi que ce soit pour ces femmes. Et je vois ces cas-là parce qu'elles croient que je vais les aider, mais moi je ne peux plus rien faire.
Alors Shafik Shraibi ne peut rien faire, comme il le dit. Il risquerait d'atterrir derrière les barreaux pendant 5 ans. L'avortement étant interdit, une femme, un médecin, un anesthésiste ou même un infirmier qui sont impliqués dans une interruption volontaire de grossesse s'exposent à des poursuites judiciaires, ce qui n'empêche pas la pratique d'être courante.
Et on a fait une étude, et parce que l'avortement il est clandestin, donc on ne peut pas savoir les chiffres exacts, mais on est un minimum de 600 à 800 avortements par jour.
Le roi Mohamed VI a décidé de modifier le paragraphe qui condamne l'avortement dans les textes de loi. Le souverain propose d'autoriser l'avortement suite à un viol, à un inceste ou en cas de malformation grave du fœtus. Mais ça fait 3 ans maintenant que le projet est au Parlement marocain sans que la réforme n'ait pu être adoptée. Explication de la députée Fatim Zahra Barassat.
La réforme ne concerne pas seulement l'avortement, c'est une réforme plus vaste du code pénal qui touche aussi à des thèmes comme l'enrichissement illicite, les peines alternatives, les réductions de peine pour les cas où l'on encourt la peine de mort.
La diversité et la complexité des thèmes expliqueraient donc que les débats s'éternisent. La députée plaide, elle, pour une réglementation spécifique à l'IVG qui décriminalise l'avortement dans certains cas.
Un avortement après un viol, par exemple. Pourquoi criminaliser les victimes de viol? Et si un fœtus est mal formé, pourquoi est-ce que ça doit intéresser le code pénal?
Mais ce point de vue reste minoritaire au Parlement, comme la volonté de faire passer la réforme du code pénal. Pour le médecin Shafik Shraibi, c'est dommage, parce que les lois en vigueur ont de lourdes conséquences.
Il y a les infanticides, celles qui tuent leur enfant à la naissance, celles qui le jettent, et on trouve des enfants jetés dans les forêts ou jetés dans quelque part. Il y a celles qui vendent cet enfant, le trafic d'enfants.
Les grossesses non désirées ne sont pas toujours le fruit de la violence. Parfois, et même souvent, elles sont dues à l'ignorance. Beaucoup de jeunes Marocains et jeunes Marocaines ne savent rien ou pas grand-chose de la sexualité. C'est pourquoi Aïcha Eshchenna travaille depuis plusieurs décennies maintenant à l'éducation sexuelle des jeunes.
Il faut qu'il y ait une vraie éducation sexuelle. Dès le jeune âge, à la maison, par la famille, c'est le devoir de la famille d'expliquer aux enfants ce qui peut se passer.
La coalition marocaine des instances des droits humains, qui regroupe une 20aine d'associations marocaines, s'est inquiétée il y a quelques jours d'un recul des droits humains dans le royaume. Les associations dénoncent des abus de pouvoir, des militants réprimés et des procès inéquitables. La coalition qui écrit aussi, je cite, que la justice est devenue un outil de règlement de compte et de vengeance. Des remarques qui concernent le procès contre Hajar Rasouni, mais aussi l'emprisonnement des manifestants pacifiques du Hirak dans la région du Rif, on en avait parlé dans cette émission. Un mouvement de protestation dont avait justement parlé la journaliste dans ses articles, mais ceci n'a certainement rien à voir avec cela. Les tensions entre Washington et Téhéran font régulièrement la une de l'actualité ces derniers mois. En Iran, une rhétorique officielle s'est mise en place pour inculquer aux plus jeunes qu'il faut considérer les États-Unis et les Américains comme des ennemis. Pourtant, les Iraniens boivent du Coca-Cola, ils arrosent leur steak de ketchup de la marque Heinz, ils utilisent des iPhones, mais toutes ces marques sont étiquetées par le pouvoir comme des produits de Satan. Le surnom dont les gardiens de la Révolution affublent les États-Unis depuis des décennies maintenant. C'est donc ce que les enfants apprennent à l'école, et c'est bien comme ça de l'avis du politicien iranien Jabar Khushakinejad. Il est spécialiste des questions d'éducation.
Il y aura toujours des slogans comme « mort aux arrogants » ou « mort à Satan ». Si un autre pays prend la place des États-Unis et qu'il essaye aussi de soumettre les autres peuples du monde, alors ces slogans se retourneront contre lui. Peut-être qu'un jour on criera « mort à Israël » ou « mort à l'Angleterre ».
Jabar Khushakinejad est un député conservateur, vous l'aurez compris. Nous le rencontrons dans un couloir du Parlement à Téhéran, accompagné d'un autre élu conservateur, Mohammad Javad Abtahi. Tous les deux sont en costume-cravate. Pour Abtahi, des erreurs ont été commises au moment de la réforme de l'éducation entre 1997 et 2005.
Malheureusement, le ministère de l'Éducation de cette époque a donné aux réformes une orientation anti-religieuse. Aujourd'hui, les enfants connaissent mieux les noms des joueurs du Real Madrid et de leurs épouses que ceux des martyrs iraniens qu'ils ne connaissent plus.
Un chercheur américain a entrepris pour un institut international basé à Jérusalem d'étudier les manuels scolaires iraniens parus dans les années 2000 à 2004. Dans ses livres d'école, les Américains sont toujours désignés sous les termes d'oppresseurs ou d'arrogants. Leur objectif, toujours selon la doctrine officielle de la République islamique, est de piller les biens des nations plus faibles et de les réduire en esclavage. Dans le manuel d'une classe de lycée, le chercheur a trouvé un appel aux jeunes lecteurs musulmans à casser les dents des bouches américaines. Le livre recommande aussi aux enseignants d'emplir les cœurs des écoliers de haine envers les arrogants. Depuis, le ton s'est adouci, la propagande est un peu plus subtile, mais le député Mohammad Javad Abtahi le regrette.
Le ministère exerce une pression sur les directeurs d'établissement. Ils n'ont plus le droit de jeter les drapeaux américains ou israéliens au sol pour que les enfants les piétinent en entrant en classe. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce signal qu'on donne en interdisant ça ?
Peut-être qu'il existe des consignes contre ces pratiques étonnantes, mais un jeune Iranien nous confirme qu'elles ont toujours cours dans certaines écoles. Lors des journées exceptionnelles, comme certains jours fériés ou pour l'anniversaire de la Révolution, les écoliers sont réunis dans la cour pour défiler en criant des slogans anti-américains. Sarah, 10 ans, issue d'une famille nantie, a déjà assisté à ce genre de scène.
Nos enseignants, ils ont crié « Mort aux USA !» le jour de l'anniversaire de la Révolution.
Des campagnes sont régulièrement alimentées sur Internet pour assimiler les États-Unis avec le diable. Mais Internet permet aussi une ouverture des jeunes Iraniens sur l'extérieur. La grand-mère de la copine de Sarah, Mariam, se rend par exemple aux États-Unis une fois par an. Sa petite fille raconte.
Quand elle rentre, elle me montre des photos. C'est beau et propre là-bas. Ils parlent une autre langue. Ici, tout le monde porte le voile. Là-bas, les gens ne s'en préoccupent pas. En plus, c'est vert et plus beau qu'ici. Il fait aussi un temps meilleur là-bas. Donald Trump, il est très méchant. Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais je sais que c'est le président et qu'il ne veut pas nous laisser entrer.
Les États-Unis, au moins, ils ont de l'avenir. La plupart des gens que je connais, ils ont quitté l'Iran pour aller chercher l'avenir aux USA.
C'est la fin de ce numéro de Droits et Libertés. Merci à Karin Zenz et Jens Borchers pour les sons. Rendez-vous dans nos podcasts sur dw.com/français. Et sinon, la semaine prochaine, même endroit, même heure.